Ensemble, ce que nous croyons avoir reçu de Dieu, à savoir notre destination collective. Une vision, c'est en effet ça, le lieu vers lequel nous nous dirigeons, un peu l'objectif idéal à atteindre et qui, par répercussion, anime chacune de nos activités d'Église. Alors, savoir où on va, c'est déjà utile quand on est seul à y aller. Ça devient carrément indispensable quand on est beaucoup. C'est un peu comme lorsqu'on fait du rafting en rivière sur un bateau pneumatique en équipe. C'est essentiel pour le bien-être de chacun, voire même parfois vital, que chaque personne sur ce bateau sache ce qu'elle doit faire en fonction de l'activité du moment et de la destination. Si l'un souhaite plutôt faire du pédalo sur le lac, ou que quelqu'un aimerait bien s'arrêter dans cette petite crique pour faire de la pêche à la ligne, les trajectoires du bateau vont rapidement apparaître contradictoires. Et ce qui devait être un moment plaisant pour tout le monde devient frustrant pour chacun. Alors avoir une compréhension claire et partagée du voyage dans lequel nous sommes embarqués et de pourquoi nous le faisons, je crois que c'est une condition d'un vécu serein, voire efficace et satisfaisant pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on existe comme Église ici ? Où allons-nous embarquer que nous sommes en pleine rivière sur notre petit bateau ? Eh bien, selon notre vision, nous faisons ce que nous faisons parce que nous voulons, parce que nous rêvons d'une région de Cossonay connecté au Christ pour la gloire de Dieu. Et donc on va s'arrêter sur 3 dimanches ensemble sur cette vision et les membres du conseil pastoral vont se succéder pour vous proposer 3 lectures sur 3 parties de notre vision. Dimanche prochain, Johan parlera de l'aspect connecté au Christ. Le 24, Corinne s'arrêtera sur la finalité de toute chose, donc pour la gloire de Dieu. Et je vous propose aujourd'hui d'entrer dans la première partie, une région de Cossonay. Alors c'est déjà un sujet de prédication un peu curieux, hein, une région de Cossonay, voilà, c'est le titre. Que peut-on bien dire un dimanche matin dans un message sur une région ? On va voir, effectivement, c'est inhabituel pour moi aussi, mais je crois pourtant qu'il y a des vérités bibliques à découvrir, très importantes. Vous remarquerez premièrement que notre vision ne dit pas « nous rêvons d'une église connectée au Christ ». Nous parlons d'une région. Et je crois que c'est une juste compréhension biblique pour l'église à être implantée. Autrement dit, le lieu où nous sommes en tant qu'église importe. On ne peut pas le séparer de notre vécu d'église. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Premièrement, la région d'une église importe parce que l'église n'est pas qu'une réalité universelle. La grande famille de toutes les langues, de tous les siècles que Dieu s'est acquise pour sa gloire. C'est cela, mais c'est aussi une réalité locale. Les rassemblements locaux font partie du plan de Dieu. Des indications de Jésus aux instructions des apôtres, on voit qu'une communauté incarnée dans des relations sociales réelles et des rassemblements physiques, ça fait partie de la norme. Et les implications de cet appel sont, il est vrai, surtout importantes pour les relations à l'intérieur de l'Église. Les croyants ne peuvent pas être uniquement des électrons libres. Ils sont appelés à se frotter les uns aux autres pour grandir et servir mutuellement, mais pas uniquement. Je crois que l'Église locale, le rassemblement des croyants en un lieu donné, c'est un corps social et une réalité visible. Une réalité visible qui ne peut pas être coupée de la société. Et je crois que Jésus touche du doigt cette réalité quand dans le Sermon sur la montagne, il dit ceci, « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Que votre lumière brille devant les hommes. Autrement dit, le rassemblement des croyants ne passe pas inaperçu dans la région qui accueille cette Église. Cette région devient témoin de la lumière qui y brille. Donc la région d'une Église importe parce que l'Église est locale. Elle est appelée à s'incarner, à planter ses racines dans un lieu avec tout ce qui compose sa réalité sociale, économique et culturelle. Et c'est le deuxième point. Pourquoi est-ce que ça importe ? Parce que Dieu implante son Église pour qu'elle porte du fruit. Notre passage d'un évangile, Jean 15, Jésus dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Et à peine plus tard, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et le contexte direct de ce passage nous montre que l'Église locale ne peut pas porter de fruits si elle ne demeure pas en Dieu. C'est cela que Jésus enseigne. Mais l'image tirée du monde agricole nous indique aussi que le terroir influence la croissance des fruits. On ne peut pas porter de fruits sans racines dans le sol où on est planté. Et un chrétien qui ne porte pas du fruit, c'est une contradiction en soi. Pour un jardinier, bien connaître le terroir, c'est la clé d'un travail réussi. Les soins qu'il va apporter aux plantes, aux fleurs qu'il fait pousser, dépendent de la nature du sol, de l'exposition du terrain, des conditions météorologiques. Il y a tout un ensemble de facteurs qui influencent la croissance et l'épanouissement de son jardin. Et ça implique pour une église locale qu'elle soit en interaction avec le milieu dans lequel elle est implantée. On porte du fruit en tant que chrétien dans un lieu parce que nous vivons dans ce lieu. Et vivre dans une région doit nécessairement impliquer tout ce que vivre veut dire. Travailler, manger, socialiser, construire, se détendre, se cultiver, en plus de célébrer Dieu et de témoigner son amour. Si nous considérons notre région uniquement pour ce qui concerne nos obligations professionnelles ou nos loisirs, mais que la dimension de notre foi n'est pas présente dans cet aspect régional, on est en fait en train de penser que l'Évangile n'est pas pour les personnes qui nous entourent. On se coupe de notre région par légalisme ou par crainte. Mais Jésus, s'il nous préserve du monde, il nous y envoie. Et dans la prière qu'il fera à son Père juste avant d'être livré, il le dit « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Donc il nous envoie pour que nous nous rassemblions en un lieu, être une église locale, et pour que nous portions du fruit dans la terre qui est la nôtre. La région importe. Et ces vérités bibliques sont valides pour toutes les églises du monde. Toutes les églises locales, être implanté dans une région et porter du fruit. Mais nous ne sommes pas le monde entier. Quel est ce terrain qui est le nôtre ? La suite de notre vision nous le dit, une région de Cossonay. Alors voilà, on y est, le local. Nous sommes à Cossonay. Et les êtres humains qui peuplent ces contrées, comme c'est le cas pour chaque région du monde, ont développé une réalité qui leur est propre. Une réalité culturelle. Si vous me permettez une petite parenthèse théorique, j'aimerais questionner un tout petit peu ce qu'est une culture. Une petite parenthèse. Je prendrai ici une définition proposée par Timothy Keller, qui est un pasteur new-yorkais décédé cette année, qui a beaucoup réfléchi aux liens existants entre l'église locale et la culture ambiante. Une culture, pour lui, c'est la transformation, c'est ce que les humains font des matières premières de la terre, tout ce qui est naturel, tout ce qui est de la création, tous ces éléments-là à disposition des humains sont transformés pour créer un environnement qui sert des vérités et des croyances sur la réalité. C'est une vision du monde. La culture donne à tout ce qui nous entoure une clé pour décoder le mystère de la vie. Ça offre un sens. Un système de valeurs. Les réalités universelles, par exemple, de la procréation, de la violence, sont intégrés localement dans des institutions comme la famille, le mariage ou des régimes politiques qui sont complètement différents d'une région à l'autre. C'est des réalités culturelles. Et je ne vais pas plus détailler ces aspects, voilà, mais il importe de comprendre que les cultures constituent de véritables visions du monde. C'est qu'elles servent à répondre aux grandes questions de la vie. Ça aide les individus à s'orienter en termes de choix professionnels, relationnels. Vous voyez, on a vécu 8 mois avec Caroline au Guatemala. Dans ce pays, une personne qui reste jusqu'à 40 ans chez ses parents parce qu'elle n'est pas mariée, ce n'est pas du tout inhabituel. Ça le serait beaucoup moins en Suisse. Ça peut arriver, il n'y a aucun souci, mais c'était très répandu en fait au Guatemala. Et ce sont des raisons culturelles qui l'expliquent. Le sens de la famille est différent. C'est pas faux, c'est pas juste. C'est le sens qu'on donne à cette réalité qui nous entoure, aux matières premières qui nous entourent. Et la région de Cossonay ne fait pas exception. Elle a créé une culture. Et on y est. On est dans cette région, dans cette culture. Et le problème pour les chrétiens, souvent, c'est que cette vérité-là, elle est un peu ignorée. Quand on y vit depuis notre naissance ou depuis des années. C'est un peu comme des poissons à qui on demanderait d'expliquer ce qu'est l'eau. On n'est pas vraiment conscient de notre environnement, on y vit. Et pourtant, il nous influence. Ça contribue à notre manière d'être. On n'est pas juste des personnes construites par les messages qu'on entend le dimanche. On est des personnes qui proviennent d'une culture précise. Et chaque culture, en tentant de répondre à des grandes questions de la vie, s'approche plus ou moins de la vision de Dieu. Elle n'est pas pourtant l'équivalent parfait de la pensée de Dieu. Mais Dieu travaille au travers de chaque culture. Alors, voilà pour la parenthèse un petit peu théorique, comme je l'appelle. Voyons quelques éléments maintenant distincts de notre région ici à Cossonay. Je préciserai avant de le faire que mon but n'est pas de détailler précisément ce qu'est ou ce que n'est pas la région de Cossonay. C'est beaucoup plus une invitation à montrer que cette région-là, on y est, il faut apprendre à la connaître. Ce message ne pourra pas y répondre parfaitement et complètement, mais notre vie en tant qu'Église doit chercher à la connaître et à apprendre à l'aimer pour servir Dieu et pour servir la vision qu'il a mise sur notre cœur. Alors, quelques points, et puis certainement ce sera, si vous y êtes né, des banalités, mais la région de Cossonay, c'est déjà une réalité démographique. Voilà. Si on prend le district de Morges, dont fait partie Cossonay, c'est 87 249 résidents qu'on côtoie, qui font partie de notre vie. À Cossonay, la population en 2022, ça augmente, c'est 4389, dont 1081 sont d'origine étrangère. Et près de 1000 personnes en dessous de 20 ans. C'est des réalités à prendre en compte quand on parle de notre région. Il y a des pyramides démographiques, près d'un quart de la population sont en dessous de 20 ans. La région de Cossonay, c'est ensuite une réalité politique. C'est un village qui a acquis des compétences pour administrer la vie de ses habitants. Je donne quelques informations, c'est pas forcément toujours très utile, mais cette réalité politique, ça crée des processus de prise de décision qui sont parfois complexes, parfois source de frustration. Il y a une répartition de pouvoir entre plusieurs autorités et tout ça crée un horizon d'attente pour les gens autour desquels on vit. Ils attendent de leurs autorités certaines réponses, ils y participent, le bénévolat fait aussi vraiment partie de la réalité nécessaire à la vie commune ici, c'est ancré dans notre ADN. La région de Cossonay, c'est aussi une réalité socio-économique qui a longtemps été rurale comme le reste de la Suisse, et puis qui aujourd'hui voit un tas d'industries, de services bien installés qui donnent une dynamique et une qualité de vie aux personnes ici dans cette région. La région de Cossonay, c'est une réalité artistique, sportive, associative, c'est des projets régionaux, des tensions autour d'infrastructures en développement qui peinent à répondre à l'installation de nos nouveaux habitants parfois. C'est des aspirations, des craintes, la peur du dérèglement climatique, des factures accumulées, les coûts de la santé. Et c'est dans cette région, en prise avec toute cette réalité naturelle et culturelle que Dieu nous a placée pour vivre son plan, notre vision, voir la région de Cossonay se connecter à Christ pour sa gloire. Alors comment nous y prendre? Les outils de l'Église locale que nous sommes restent les mêmes ici, comme en Israël au premier siècle. Les actes et la parole. Partager notre espérance et l'incarner par une présence bienveillante, une force de bénédiction sociale dans notre voisinage, les actes. Mais les actes en eux-mêmes, à mon sens, ne suffiront pas à connecter la région et sa population à Jésus. Parce que notre culture, elle est devenue pluraliste. Plein d'opinions différentes donnent des sens différents à ce qu'est la réalité. Le christianisme et le message de Jésus n'est plus la référence culturelle par définition. Et ils ne peuvent pas décoder un geste bon ou une action généreuse seule. Je ne crois pas qu'il faille s'attendre à ce que des personnes rencontrent Jésus uniquement à partir de l'environnement dans lequel ils baignent. C'est nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant? Nous devons également annoncer Jésus. Et c'est le dernier point que j'aimerais aborder ce matin. Comment annoncer Jésus dans une région de Cossonay telle que la nôtre, pluraliste, au XXIe siècle? J'aimerais terminer donc en vous parlant de ce qu'on appelle la contextualisation. Mettre notre message en contexte. Ce que c'est pour nous en tant que chrétiens et ce que c'est comme nécessité. Alors la vérité, c'est que Jésus est le même, partout et tout le temps. Mais comme nous l'avons vu, les cultures et les gens qui les créent sont différents. Et je me rappelle souvent avec un certain plaisir mon temps en Inde en 2009, j'avais fait une école de disciples avec Jeunesse en Mission. On était à Calcutta, on s'était rendu pour un temps de louange publique dans la gare de Calcutta, hein, comme les écoles de disciples le font de temps en temps. Alors, il faut se représenter ce que c'est qu'une gare hein, dans une grande ville en Inde. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les transports publics en Suisse. Ça n'a pas grand-chose à voir avec quoi que ce soit en Suisse, en fait. Le simple fait d'être occidentaux parmi les dizaines de milliers de personnes qui traversent à la minute les halles, les quais, ça attire l'attention. Alors ajoutez à cela le fait qu'on était un groupe de 12 femmes sur 14, qu'on avait avec nous une guitare et le zèle de l'Éternel pour conduire nos actions. Ça vous donnera peut-être une image de ce que nos petites sorties a pu créer comme intérêt. Donc une immense foule se presse autour de nous rapidement. On se met en fait dans le feu de l'action. Certaines de mes amies se mettent à prêcher. On ne chantait pas, elles annoncent Jésus. Et je passe les détails, mais ce que j'aimerais souligner dans cette histoire, c'est que nous nous adressions à un groupe de personnes qui étaient, pour la plupart, dans un cadre de référence culturelle hindou. Et les notions de péché, d'amour, de sainteté de Dieu, ben, ce n'est pas les mêmes que pour la vision du monde chrétienne. Et en général, ça, on est bien conscient. Ces différences théologiques d'une religion à l'autre. Mais ces différences de message, est-ce qu'on est conscient aussi de ce que ça dit sur le travail, ou la famille, ou les amitiés, la fidélité, la réussite ou l'échec? Ce sont des notions qui sont essentielles à la vie, mais qu'on n'associerait pas spontanément à des thématiques religieuses. Et pourtant, notre message dialogue avec cela. Alors, dans cette gare de Calcutta, un jeune homme s'est approché de moi, et en arrière-fond, mes amis étaient en train de crier que Jésus l'aimait, Et il avait des questions et il est venu vers moi. Première question, il m'a demandé quelles sont les émotions de votre Dieu. Alors voilà qu'en plein milieu d'un prêche spontané, une personne n'ayant certainement jamais entendu l'évangile s'intéresse aux émotions de notre Dieu. Je me suis dit, mais quel est le cadre de référence culturelle dans lequel il nage pour que l'annonce approximative de l'évangile lui inspire cette première question, les émotions? Personnellement, je n'ai jamais entendu dans la région de Cossonay quelqu'un me demander ce que c'était les émotions de notre Dieu. Mais voilà, cette petite histoire personnelle pour montrer que ce que l'on annonce ne va pas éveiller les mêmes questions ou réactions. Et il importe de partager notre espérance d'une manière qui sache rencontrer les gens là où ils se trouvent. J'ai dû, dans mon interaction avec cet homme, rentrer dans cette vision qui n'était peut-être pas forcément la même et parler vraiment des émotions de Dieu, qui finalement, le message de l'évangile parle des émotions de Dieu, absolument. Et c'est le principe de la contextualisation. Il ne s'agit pas d'inventer une nouvelle histoire. Il s'agit de présenter la même histoire et le même Jésus d'une manière qui parle aux aspirations de nos concitoyens. Ce n'est pas un concept nouveau. L'apôtre Paul l'a vécu, lui qui prêchait partout le même message, mais d'une façon très différente, selon le public à qui il s'adressait. Si l'on observe son premier discours dans les Actes, on est frappé par les références à l'Ancien Testament et l'insistance sur l'accomplissement en Jésus de l'espérance d'Israël. Ce terme, l'espérance d'Israël, il parle dans une synagogue. Il parle à des gens qui avaient mémorisé l'Ancien Testament. Quelques temps plus tard, pourtant, son fameux discours sur l'aréopage à Athènes, il n'y a plus aucune citation biblique. Même pire, dirions-nous, il cite un auteur païen, il cite un poète grec. Est-ce qu'il prêche un autre message? Il prêche un autre Jésus? A-t-il changé de ministère? Non, son public a changé, mais le message reste le même. Et il en parle également dans sa première épître aux Corinthiens. J'aimerais vous lire ce passage dans 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23, qui dit ceci. Bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les lois de Moïse, un juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne le sois pas, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et j'ai fait cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à sa bénédiction. Paul s'adapte, il se fait tout à tous. Et il ne s'agit pas pour lui d'être dans le compromis ou dans l'hypocrisie. Ce n'est pas ça dont il parle. Il ne s'agit pas non plus de dire aux personnes uniquement ce qu'elles ont envie d'entendre, pour ne pas les brusquer. Il s'agit en réalité d'une capacité inspirée par l'amour, une façon de parler le langage de l'autre dans le but de se faire comprendre. Timothy Keller, encore lui, a défini la contextualisation comme cela. Donner les réponses de la Bible aux questions sur la vie que se posent les gens d'une époque et d'un lieu. Et les donner dans un langage et des formes qu'ils peuvent comprendre, par des appels et des arguments dont ils peuvent ressentir la force. Même s'ils les rejettent. Il n'y a pas de garantie de succès avec la contextualisation. Ce n'est pas une méthode toute parfaite. Paul a souvent été rejeté par les Juifs, par les Grecs, mais ce rejet était orienté contre les vérités de l'Évangile, pas contre une obscurité de langage ou d'image. Et je crois que l'indistinction, là, elle est importante. Bien trop souvent, en effet, nous ne savons pas comment connecter les attentes de nos concitoyens aux vérités de l'Évangile. Et ce désintérêt ou le rejet de notre message se situe au niveau de la forme. Pas uniquement, je ne le dis pas que c'est, on a complètement raté, mais il y a une partie de cela qui doit être redécouvert. Parce qu'un message peut être rejeté, non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il n'apparaît pas utile. Donc c'est un modèle biblique, ce n'est pas un concept d'école de disciples. Et je crois que c'est aussi une nécessité pour une église qui cherche à rejoindre sa région. On cherche à présenter le message de l'Évangile, non seulement dans sa vérité, mais dans sa pertinence. Voilà, un message vrai n'est pas toujours le plus fascinant à écouter, ou le plus à même de créer des effets escomptés pour celui qui le diffuse. Si je dis aujourd'hui à quelqu'un de la région de Cossonay qu'il pêche s'il a menti une fois dans sa vie, je dis certainement quelque chose de vrai, mais c'est probablement une manière peu efficace de lui faire sentir son besoin de la grâce divine. Voilà. Je peux me tromper, mais je pense que les rapports à la vérité, au mensonge, ne sont plus aussi vifs dans les mentalités. Et puis aussi tout simplement parce que la notion de péché, c'est une notion exotique. quasi mythologique, ça ne dit plus rien à notre population. Si notre message ne s'incarne pas dans la vie quotidienne de notre région, si le Jésus que nous vivons, si les vérités bibliques ne parlent pas aux espoirs, aux craintes, aux aspirations des personnes constituant la région et la culture de Cossonay, je crois que nous passons partiellement à côté de notre vision. Mais nous croyons en un Dieu qui rencontre. Nous croyons en une histoire qui s'adresse à toutes les questions de la vie que notre région se pose. On croit en un Dieu qui s'est véritablement fait homme et qui aujourd'hui encore s'incarne dans les trajectoires de vie pour répondre aux attentes de chaque personne. Parfois en les réorientant, parfois en les validant. Jésus répond à la région de Cossonay. Il n'y a d'ailleurs que lui qui puisse le faire réellement. Alors que pouvons-nous donc engager comme moyen pour parvenir à cette vision? Qu'est-ce que cela signifie pour que notre Église, que de croire en une telle histoire dans notre région? Et puis qu'est-ce que ça représente pour Cossonay d'avoir une Église locale ici? À mon avis, ça doit vouloir dire quelque chose de plus qu'une mise à l'enquête pour un nouveau bâtiment et un discours des autorités au début. Ça commence par là. Mais ça ne peut pas juste s'arrêter à une présence physique. Premièrement, j'aimerais croire que ça implique pour notre Église de nous intéresser à notre région. Nous pouvons chercher à comprendre notre propre culture et les attentes, nous intéresser à l'actualité, comprendre ce que les gens lisent, les films qu'ils regardent, les séries qu'ils nourrissent leur imaginaire, comprendre notre région. Et puis deuxièmement, je crois qu'une église qui rencontre sa région, c'est une église qui aime sa région, concrètement. Et je parle ici principalement de notre église en tant que membre individuel, déjà impliqué comme celle de la terre. Pas nécessairement en tant que programme d'église. Mais nous pouvons nous impliquer dans les activités de notre région, prendre le temps de rencontrer les gens sur leur terrain, s'engager dans une association, rencontrer nos voisins, rejoindre un parti politique. Finalement, je crois qu'une église qui répond aux appels de sa région, c'est une église qui offre ce qu'elle a découvert. Une église qui présente Jésus au monde. Quand je suis rentré de mon école de disciples, la fameuse, j'ai commencé à prier régulièrement pour la Suisse et pour notre région. Je faisais alors partie des responsables du groupe de jeunes et je peux dire que le réveil spirituel ici, c'était à peu près mon unique rêve. J'ai passé des heures à prier dans les champs autour du village de Vuron où je vivais, dans le local de rencontre qu'on avait aménagé avec des amis dans la grange de l'un d'entre eux. J'allais seul pendant mes vacances universitaires, je mettais des enregistrements en direct de la maison de prière de Kansas City et j'intercédais pour eux pendant des heures. Et je rêvais que nos villages se tournent ensemble vers Jésus et reconnaissent en lui la source, la réponse à leurs longues errances et recherches. Et je repense aujourd'hui, c'est vrai, à ces moments de prière comme un beau souvenir de jeunesse, mais dans un sens, j'y ai pas renoncé. Je crois encore qu'une région de Cossonay connectée au Christ est au centre du cœur de Dieu et qu'il nous donne cette vision pour que notre région le rencontre. Et je crois que ça se concrétise de plein de façons dans son cœur. Je crois qu'une région qui rencontre Dieu, c'est une région qui se détourne de ses idoles, une région qui pratique la justice, qui donne généreusement de ses ressources et partage avec les plus démunis. Je crois que nous pouvons investir et nous investir pour que dans notre région, les familles aient un cadre de vie paisible, les enfants soient assurés d'être protégés des abus, que nous pouvons voir et espérer voir une conscience morale s'incarner au cœur même de nos institutions et des personnes qui les administrent. C'est là notre raison d'être, celle de la terre, lumière du monde. Une ville sur une montagne, le sermon sur la montagne, que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc en conclusion, nous nous rassemblons pour voir notre région se connecter au Christ pour la gloire de Dieu. Et j'ai pas cherché avec ce message à nous donner une liste de tâches à mettre en œuvre, des programmes d'évangélisation, même des stratégies. J'aimerais juste nous laisser avec une partie, peut-être aussi un peu personnelle, des implications qui découlent de notre vision. Nous sommes une église locale, des chrétiens implantés dans un terreau, et pas des chrétiens hors sol, pas des chrétiens indifférents à ce qui se déroule ici. Cela implique de porter des fruits et de pouvoir interagir avec nos concitoyens en présentant par nos actes et nos paroles les réponses bibliques à leurs préoccupations de façon vraie et pertinente. Jésus est l'espoir des nations, il est l'espoir de cette région. Je vais en rester là, je vais prier pour notre aventure dans ce petit bateau qui descend la rivière. Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais d'être ici, une église, dans cette belle région de Cossonay, que nous voulons comprendre, que nous voulons aimer, que nous voulons bénir. Et je prie déjà pour que notre vision puisse être intégrée, partagée, comprise et surtout vécue par chacun d'entre nous. À la fin de chaque culte, il s'agit d'être rassemblés comme un seul corps pour l'accomplissement de l'œuvre que tu as prévue pour nous. Et là où ces mots pourraient nous enfermer, Seigneur, je prie que tu fasses de la place pour que ton esprit nous conduise là où il veut. Et là où nous sommes dispersés, Seigneur, je prie que toi, en tant que bon berger, tu nous rassembles et tu nous fasses te suivre. Et puis deuxièmement, je prie pour cette région, Seigneur. Je prie pour que notre Église puisse être cette ville sur la montagne, un lieu qui brille, un lieu qui brille pour ta gloire et pour le bien-être de cette région. Seigneur, je prie que les personnes qui recherchent les réponses à leur existence, Seigneur, puissent te trouver, toi le grand je suis. Et que humblement, Seigneur, sans aucune forme de supériorité morale, Seigneur, nous soyons tes mains, tes pieds, les instruments de ta bénédiction dans cette région. En ton nom, Jésus. Amen.